Bonjour à tous. J'aime bien ces petits moments-là où, après l'été, tout le monde se rassemble et j'allais moi aussi vous partager un peu ce que j'ai vécu dans l'été, mais rien que de ce que j'ai entendu là, ça m'a ouvert sur une autre piste en entendant Yaël partager justement ce qu'ils ont vécu, en voyant Xavier se préparer là, demain, prendre l'avion et repartir là où on a passé quelques jours. Au mois de novembre, en voyant Citom qui se prépare pour dans un peu plus longtemps, en voyant Aurélie qui reviennent d'Irlande et qui nous rejoignent. Je ne sais pas si vous étiez déjà là les semaines précédentes, mais comme moi je n'étais pas, voilà, je retrouve un peu là tout cet univers et toutes ces histoires de vécu des uns et des autres avec notre Dieu pendant l'été. Chacun peut-être une expérience différente. Moi j'allais vous parler de quelle manière Dieu m'a renouvelé. Dans ces temps avec lui pendant l'été, mais je vois que chacun a vécu des choses qui sont sans doute un petit peu différentes. Et par rapport à la question de l'unité qui nous a été présentée dans cette première partie, justement, qu'est-ce qui peut nous rassembler à travers nos expériences si disparates les unes des autres? Qu'est-ce qui, au-delà justement de cette unité toute humaine où on va se retrouver sur une émotion, un moment, une passion commune, peut nous rassembler? Il y a notre Dieu, bien sûr, notre Dieu qui se révèle, notre Dieu qui veut être avec nous, qui veut être présent au milieu de nous, qui veut être dans la vie de chacun d'entre nous. Nos expériences sont diverses et variées, mais lui est bel et bien ce socle qui nous permet de nous rassembler et de vivre une unité profonde, une unité réelle. Ce Dieu qui veut demeurer avec nous. Et c'est justement le programme que je vous propose pour les prochaines semaines, comme à notre habitude, on se lance dans une nouvelle série de prédications. On va parcourir le livre de l'Exode qui nous parle justement d'un peuple qui pouvait se sentir réuni parce qu'il était originaire du même père, Abraham, parce qu'il vivait les mêmes expériences, l'esclavage en Égypte, mais qui va découvrir quelque chose de bien plus profond qui les rassemble, ce Dieu qui veut demeurer au milieu de ce peuple. Et c'est ce qui va nous intéresser, nous passionner dans les prochaines semaines. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la lecture du premier chapitre de l'Exode qui va nous, justement, nous amener devant ce Dieu et avec ce défi que je place devant nous en lisant ce texte. Choisir la crainte de Dieu. Pour être au bénéfice de ce Dieu qui veut être au milieu de nous, nous avons notre part à faire. Et cette part, nous allons le voir en partie à travers ce texte, c'est de choisir la crainte de Dieu. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans le livre de l'Exode et nous allons lire les versets 1 à 19 du premier chapitre, comme à l'habitude, le texte et projeté pour suivre dans la version que je vais vous lire. Exode 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre, parce que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Jusque-là, la lecture de la parole ce matin. Notre texte commence par un verset. Voici les noms des fils d'Israël. Probablement pas votre verset préféré du livre de l'Exode. Verset qui s'ajoute à toutes ces généalogies qu'on rencontre un peu plus tôt dans la Genèse. Pourtant, avec ce verset, l'Exode nous donne, dès son entrée en matière, ce que j'appelle des racines et des ailes pour notre compréhension de là où nous en sommes dans le plan de salut voulu par Dieu. Je m'explique. Dans l'Antiquité, les livres portaient souvent le titre du premier mot qu'on trouvait dans le livre. Et c'est le cas la plupart du temps dans la Bible. Le deuxième livre du Pentateuque est nommé en hébreu Shemot, ce qui, je pense, ne vous dit pas grand-chose, tout comme à moi. Heureusement, les traducteurs sont là pour nous aider. Shemot veut dire en hébreu les noms. Et c'est comme ça, en fait, que dans une Bible hébraïque s'appelle le deuxième livre du Pentateuque, Shemot, les noms, et non pas l'Exode. Si nous l'appelons l'Exode, c'est parce que cela vient du grec, Exodus. Quand les premiers traducteurs ont traduit la Bible dans la langue courante de l'époque, ils ont choisi un autre titre que celui donné dans la Bible hébraïque. Ce nom a probablement été donné pour mieux coller au contenu. Ce livre va en effet nous parler d'Exode, vous le savez, la libération d'un peuple, sa sortie d'un pays et son adoption par Dieu. La communication, le juste mot, ne date pas d'hier. Il semble que les traducteurs de nos Bibles se soient laissés prendre au jeu de donner un titre quelque part plus porteur pour nous dire ce qu'il y avait dans ce deuxième livre de la Bible. Probablement, ils ont eu raison de nous donner un livre qui motive un peu plus que si le deuxième livre s'appelait « Les noms », surtout quand on sait que le quatrième tome va s'appeler « Nombre ». C'est pas très porteur. Exode, ça nous donne un peu plus d'envie de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Une bonne idée, mais d'un autre côté aussi un renoncement. Parce qu'en perdant le titre original des noms, on perd justement ce lien avec la grande histoire de la Bible. Le livre de l'Exode n'est pas un livre à part qui nous ressasse, ou plutôt nous relate un fait divers, aussi remarquable soit-il, que l'émancipation d'un peuple. L'Exode se rattache avant tout à la grande histoire de l'humanité que Dieu veut nous révéler. Et quelle est cette grande histoire ? Eh bien, elle commence par nous dire que, au commencement, tout était bon. Et heureusement qu'elle nous le dit, parce qu'en regardant autour de nous, c'est pas notre impression normale. C'est pas ce qui nous vient en premier lieu à l'esprit. Elle nous dit que si les choses sont comme ça, c'est parce que l'homme a voulu son indépendance. Il a voulu décider par lui-même ce qui est bien et ce qui est le mal. C'est d'ailleurs tout le drame de nos sociétés jusqu'à aujourd'hui, déterminé par nos lois, nos cultures, nos traditions, notre créativité, pour faire un clin d'œil à toute la polémique autour de la cérémonie des Jeux Olympiques. ce qui est bien et ce qui est mal. On veut pouvoir le décider nous-mêmes. Il y avait derrière cette polémique justement un enjeu de savoir est-ce qu'il y a justement une morale, est-ce qu'on devrait, à travers l'art, se limiter à la morale d'une culture. Et tout à travers le premier tome de cette grande série biblique, le livre de la Genèse, nous a justement décrit la manière dont cette déclaration d'indépendance a eu des conséquences dramatiques sur l'humanité. Pensez à la manière dont le premier homme de l'humanité est mort. Pas de vieillesse, hein ? Pas de maladie. Tué par son frère. Pensez à l'épisode du déluge, une époque où le mal proliférait à ce point que l'homme n'était même plus capable de voir que le mal était là et que lorsque une arche s'est présentée devant eux, personne n'a compris que Dieu était en train de juger l'humanité. La situation de l'humanité est catastrophique. Mais à côté de cela, il y a Dieu, Dieu qui s'engage envers l'homme. Et ça commence dès Adam et Ève, quand Dieu s'est engagé, une fois le péché entré dans le monde, à venir écraser la tête du serpent et restaurer ainsi ce qui semblait gâché à jamais. Ça a continué avec Abraham, un vieillard marié à une femme stérile qui devait justement s'inscrire dans cette descendance et devenir le père d'une grande nation qui allait être en bénédiction à tous les autres peuples, justement dans l'optique de restaurer ce qui avait été gâché. Et le livre de la Genèse nous montre pas à pas comment, justement, Dieu déroule ce plan sur l'histoire de l'humanité. Et à la fin du livre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les choses ont un peu avancé dans ce plan. Qu'est-ce qui se passe à la fin du livre de la Genèse ? Eh bien, il y a Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham, devenu premier ministre de l'Égypte, qui permet à l'Égypte et à toute une région d'échapper à une famine longue de 7 ans. Pas mal quand même, comme bénédiction pour tous les peuples. Mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais à la fin du livre de la Genèse, on a donc cette situation. Et c'est pour cela que la famille de Joseph, ou plutôt de Jacob, puisque le père était encore vivant, est donc venue s'installer en Égypte pour justement prendre place dans ce pays que d'une certaine manière cette famille avait béni à travers Joseph et a été accueillie de manière très enjouée et très favorable. Aussi quand Moïse, l'auteur du livre de l'Exode, si vous êtes grec, ou des noms, si vous êtes hébreu, commence le deuxième tome en énumérant la liste des fils d'Israël, c'est pas parce qu'il est passionné de généalogie, c'est aussi et surtout pour inscrire ce livre justement dans cette grande histoire de l'humanité. Il annonce la couleur. Les noms vont continuer de développer cette saga étonnante d'un Dieu qui met en place son projet pour l'humanité, la sauver des griffes du péché. Une saga avec des constantes. Dieu est fidèle. Là où ceux qui l'appellent sont souvent à côté de la plaque. Un Dieu qui bénit, c'est ce qu'il veut, bénir tous les peuples. Non pas à cause du bien de ceux qui l'appellent, mais souvent en dépit du bien que ne font pas ceux qui l'appellent. Et voilà en quelque sorte les racines du livre de l'Exode, les racines du livre des noms plutôt en hébreu, et qui vont donc être approfondies à travers ce second tome. Mais cette saga est aussi une saga qui progresse. Et l'auteur va constater pour nous un certain nombre d'avancées dans ce deuxième tome, justement qui font écho à ce nom Exode. Il va y avoir un certain nombre d'avancées qui vont nous être données dans ce plan de salut de ce Dieu qui veut sauver l'humanité du désastre du péché. Un Dieu qui va sauver un peuple de l'esclavage. Ah, un certain nombre de parallèles avec la manière dont nous aussi nous sommes libérés d'un autre esclavage. Un Dieu qui va expliciter sa volonté par une loi. disant ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal. Pas mal, là aussi, pour contrecarrer justement notre désir d'indépendance et de le décider par nous-mêmes. Un Dieu qui conclut une alliance avec son peuple et qui veut même, et nous allons être particulièrement attentifs à cela, demeurer au milieu de lui. Vous voyez ce qui s'est passé entre Exode 1, un peuple où Dieu est présent, mais sans que ce peuple ne le sache vraiment, et à la fin du livre de l'Exode, le tabernacle, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Là, vous avez une image de ce qui va être justement un des grands apports du livre de l'Exode. Et voilà pourquoi ce titre grec est tout à fait justifié. Il nous prépare aux ailes que va nous donner ce livre pour mieux comprendre ce plan que Dieu a en réserve pour nous. Et c'est d'ailleurs avec cette image fantastique d'un peuple conduit sur les ailes d'un aigle que Dieu accueillera le peuple d'Israël au mont Sinaï. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Voilà, j'espère que désormais vous ferez une attention différente à ce premier verset du livre de l'Exode qui a vraiment plein de choses à nous dire. Mais regardons la suite de ce texte et je vous propose de le faire à partir de deux tableaux avec des caractéristiques particulière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, pendant qu'on était en vacances, là, on était dans une boutique de souvenirs, et il y a ces fameuses cartes postales, un peu en trompe-l'œil. Quand vous les regardez de prime abord, vous avez l'impression d'une carte postale normale, en 2D, puis tout d'un coup, vous l'inclinez d'une manière différente, et il y a une espèce d'arrière-plan qui se dessine, et tout est mis en perspective, et vous voyez un premier et un arrière-plan. Et c'est ce que je vous propose de faire, justement, avec ces deux tableaux. On va déjà aller voir un peu en 2D, et ensuite on va regarder finalement ce qui se joue en arrière-plan de ces tableaux. Premier tableau, nous avons donc affaire à un pharaon oublieux. Un pharaon qui oublie l'histoire de son pays et qui se met à craindre ceux qui ont autrefois été en bénédiction, on l'a rappelé, pour ce pays d'Égypte. C'est ainsi qu'au verset 9, les noms, il fait référence encore une fois au titre du livre, ne résonne plus comme une source de bénédiction, mais comme un sujet d'aversion. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Empêchons qu'ils s'accroissent. Empêchons qu'ils ne se joignent à notre ennemi. Pharaon a donc peur de ce peuple et c'est la raison pour laquelle il va commencer à accabler ce peuple. Il les envoie dans des dépôts, dans des villes lointaines. Il espère probablement séparer les familles. Il leur donne des travaux pénibles. Probablement les conditions sont pénibles. Aussi au niveau de la nutrition. En tête qu'ils aient moins envie de faire des bébés quelque part. Hein, c'est ça le plan du pharaon. Mais rien n'y fait. Le verset 12 nous apprend que plus ce peuple était oppressé, opprimé, plus il se multipliait. Il y a une espèce de contraste saisissant entre ce pharaon tout-puissant, maître absolu de l'Égypte, qui a droit de vie et de mort sur qui il veut, et son incapacité à empêcher un peuple esclave de croître. Plus il s'en prend à ce peuple, moins il parvient à ses fins. Et bien sûr, ça nous fait penser à des situations tout à fait actuelles dans le monde où des tyrans s'en prennent à des croyants, essaient de les faire taire, de leur faire peur, les persécutent, les torturent, pour essayer de mater l'Église, mais obtiennent le contraire, finalement, de ce qu'ils recherchent. Une Église, certes, en apparence, si vous regardez en 2D, affaiblie, plus de bâtiments, impossibilité de se réunir, mais qui, en réalité, est devenue bien plus forte. Parce que bien plus conscience que même si on peut lui ôter la liberté de déplacement, la liberté de réunion, il y a une libération qu'on ne peut pas lui ôter, celle que nous avons en Christ et qui se renforce à mesure qu'on la combat. Et je trouve ce contraste assez intéressant, de voir un peu la croisée des chemins. En libérant son peuple de l'oppression, et là, dans ce cas-là, son peuple, c'est Israël, Dieu prépare son peuple, dans la nouvelle alliance, à vivre cette libération malgré l'oppression. Le peuple d'Israël vivait un temps d'oppression et Dieu a montré son soin et son amour pour eux en le libérant de cet esclavage. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir vivre cette libération dans n'importe quel contexte, même celui qu'on ne souhaite pas, mais qui peut arriver, où justement on se retrouverait comme esclave physique d'un tyran, d'un maître, mais en fait totalement libre parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors, au premier chapitre de l'Exode, on n'en est pas encore tout à fait là. Hein. C'est quelque chose qu'on découvre petit à petit, progressivement, dans la Bible. Et c'est seulement en Jésus-Christ qu'on prendra pleinement possession de cette bénédiction. Pourtant, un point a peut-être attiré votre attention. Il nous parle justement de ce qui se passe en arrière-plan de cette oppression. Parce que si Pharaon a oublié en quoi les fils d'Israël ont béni l'Égypte, Dieu, lui, n'a pas oublié sa bénédiction pour son peuple. Et elle est particulièrement visible dans cette première scène. Souvenez-vous ce que Dieu avait dit à Abraham, notamment deux choses. Je ferai de toi le père d'une multitude, ceux qui te béniront, je les bénirai, ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et qu'est-ce qui se passe en Exode 1 ? Eh bien, Pharaon a oublié la bénédiction qu'a été le peuple d'Israël pour son propre peuple. Il s'oppose à la multiplication de ce peuple. En quelque sorte, il le maudit. Et en apparence, Dieu est absent. Pharaon semble omniprésent, omnipotent. Mais si vous inclinez un peu l'image, vous commencez à apercevoir la réalité. Ce n'est pas la volonté de Pharaon qui l'emporte, c'est la volonté de Dieu et son engagement vis-à-vis de son peuple. Et cette scène d'ouverture nous prépare à la suite. En apparence, Pharaon cherche à se bénir en maudissant ce peuple. En réalité, ce Pharaon oublieux sert les desseins de Dieu. Car Dieu n'a pas oublié sa promesse. Sa bénédiction sur son peuple est impossible à combattre. Et celui qui s'en prend à lui doit se préparer à recevoir le fruit de ses actes. À quoi se prépare Dieu ? À maudire l'Égypte. Et ce sera toute cette fresque incroyable des 10 plaies d'Égypte que l'on trouvera un peu plus tard. La manière dont Dieu, justement, va juger ce peuple qui a été celui de l'oppression et de l'esclavage. Alors si vous vivez une situation que vous voyez comme injuste ce matin, j'espère que ce passage est un profond encouragement. En apparence, à cause de ce que vous vivez, vous pourriez avoir l'impression que Dieu vous a oublié. D'ailleurs, c'est intéressant de penser à ceux qui ont été les premiers lecteurs de ce passage. Ce n'est pas ceux qui ont vécu l'oppression au temps de ce pharaon-là, c'est probablement les Israélites qui sont sortis d'Égypte et qui étaient avec Moïse dans le désert. Nous croyons que Moïse a écrit ces textes. Il a écrit à des hommes et des femmes qui étaient certes sortis d'Égypte, mais étaient en stationnement depuis un certain temps dans le désert et se demandaient « Mais où est Dieu maintenant ? Et qu'est-ce qu'il fait pour nous ? Pourquoi est-ce qu'on perd ce temps-là dans ce désert ?» Et au moment même où ces Israélites sont tentés de croire que Dieu n'est plus avec eux, Moïse leur rappelle cette histoire. 80 ans et même plus auparavant. Ça a dû être un profond encouragement pour eux. Le chemin qui mène à la terre promise passe souvent par un temps sans promesse. Et voilà donc notre première vision en 3D. Au premier plan, on y aperçoit un pharaon oublieux, malveillant. Mais quand on regarde de plus près, avec plus de perspective, on s'aperçoit que ce pharaon sert en fait les desseins de Dieu. Dieu n'oublie pas sa promesse. Il n'oublie pas sa justice. chacun devra rendre compte pour l'injustice qu'il a provoquée. C'est un profond encouragement pour ceux qui traversent l'injustice. Deuxième tableau, des sages-femmes désobéissantes. Et lui aussi, il va nous falloir l'incliner pour voir qu'est-ce qu'il se passe en arrière-plan. Le roi d'Égypte demanda donc aux sages-femmes, Chifra et Poua, de faire mourir en couche les garçons nouveau-nés des Hébreux. Alors, il y a débat sur l'origine de ces sages-femmes. Sont-elles hébreux ou sont-elles égyptiennes? Les commentateurs ne sont pas d'accord entre eux. Certains vont dire « mais non, c'est des noms hébreux », d'autres vont dire « non, c'est des noms égyptiens ». Certains vont dire « mais non, il y a une telle barrière entre les Juifs et les Égyptiens que ce n'est pas possible que des sages-femmes égyptiennes participent à l'accouchement de femmes hébreux, qui plus est des esclaves ». D'autres vont dire « mais non, en fait, elles jouaient le rôle de chef des femmes, des sages-femmes hébreux, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont que deux à être nommées, hein, vous imaginez ». Il y avait certainement plus que deux sages-femmes sur toute l'Égypte, même pour aider les Hébreux à accoucher. Et puis, c'est vrai, on peut se demander si Pharaon pouvait penser que des sages-femmes hébreux allaient vraiment mettre son ordre à exécution. Difficile de trancher. Je vous propose de ne pas trancher. C'est pas si important que ça. Et restons sur ce qui est vraiment clair dans ce texte. Pharaon a donné ordre que tous les bébés mâles soient tués. Mais ces sages-femmes ont refusé d'obéir à cet ordre et Dieu les bénit. La promesse de Dieu se poursuit. Cette fois-ci, ceux qui bénissent le peuple de Dieu sont à leur tour bénis. Pourtant, on est parfois un peu gêné par ce passage. Ces sages-femmes ont apparemment menti pour sauver les bébés. Alors, si Dieu fait prospérer les sages-femmes, est-ce que cela signifie que Dieu peut approuver le mensonge? Ce qu'on voit dans ce verset 19. Mais non, les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, Pharaon. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Bon, remarquez, ce verset n'implique pas automatiquement un mensonge. Hein. Il y a différentes manières de mentir dans la vie. On peut des fois arranger la vérité, hein. Se débrouiller pour arriver après l'accouchement en traînant en chemin et faire que ce qu'on dit là est vraiment vrai, même si derrière ça, il y a un beau tissu de mensonge. Difficile de définir ce qu'est réellement le mensonge, en fait. Pharaon avait dit « Montrons-nous habiles à l'égard du peuple de Dieu pour le contraindre et le faire diminuer. » Finalement, de simples sages-femmes se sont montrées plus habiles que lui pour que ce peuple continue à croître et à multiplier. Alors vous me direz, on ne répond pas à la question du mensonge. Est-il permis, dans certains cas, de mentir? Généralement, quand la question commence par « Est-il permis de ? » « A-t-on le droit de ?» c'est qu'on a déjà un pied à côté de la volonté de Dieu. En fait, faire la volonté de Dieu ne consiste pas à s'approcher ou plus près du péché, à quelques centimètres sans y toucher, en se disant « là c'est bon, je ne vais pas être atteint ». Si ce matin je me pose ce genre de questions, jusqu'où je peux aller avec mon petit ami dans l'intimité avant le mariage, ou de quelle manière peut-être, jusqu'où je peux aller avec cette loi pour la tourner à mon avantage, jusqu'où je peux aller avec l'alcool ou d'autres substances quand je m'amuse avec mes amis à l'université, au lycée. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes plutôt en train de chercher là notre propre satisfaction que la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Alors oui, la ligne de crête n'est pas toujours claire. Et elle ne va pas être facile à tracer. Mais méfiez-vous des questions « est-il permis de ?» Jusqu'où on peut aller? Parce qu'elles nous mettent forcément sur la mauvaise voie. Et en inclinant un peu notre tableau, nous commençons justement à voir ce qui se joue en arrière-plan. Les sages-femmes craignirent Dieu. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, pas parce qu'elles avaient eu un fantastique stratagème, parce qu'elles avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. On ne sait pas trop comment, si elles étaient égyptiennes, j'ai envie de dire peut-être l'intuition humaine, naturelle, va dire à ces sages-femmes que ce que demande Pharaon, c'est injuste, c'est terrible. elles ne pouvaient pas obéir à cet ordre sans péché, sans que leur propre responsabilité soit engagée. Elles ont donc pris leur courage à deux mains et cherché un moyen de ne pas suivre cette voie mortifère. Ce passage ne répond donc pas à la question « jusqu'où nous pouvons-nous nous approcher du mensonge sans mentir réellement ?» Ça, c'est ce que nous voyons si on regarde juste la carte en 2D, si on s'intéresse qu'au premier plan. Mais si nous l'inclinons légèrement, on se rend compte que derrière ces sages-femmes apparemment désobéissantes ou menteuses, nous apercevons ce qui se joue en arrière-plan. Elles ont agi par crainte de Dieu. C'est parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu qu'elles ont finalement accompli sa volonté. Si notre premier tableau nous a donné l'assurance que Dieu veut être avec nous, au milieu de nous, même quand on ne le voit pas, ce second nous montre ce que nous avons à faire, justement quand on ne le voit pas, nourrir une saine crainte de Dieu, de son nom et de sa volonté. Et c'est ce que le livre de l'Exode n'aura de cesse de développer tout au long de ses pages. Alors pour finir, creusons justement cette histoire de crainte. Parce que c'est intéressant, dans ce passage, tout le monde a peur. Pharaon a peur du peuple. C'est pour ça qu'il le réduit à l'esclavage. Les Égyptiens ont peur que ce peuple soit plus nombreux qu'eux, soit plus puissant qu'eux. C'est pour ça qu'il commence à les martyriser, à développer de la haine vis-à-vis d'eux. Les sages-femmes ont peur de Dieu. C'est pour cela qu'elles prennent leur courage à deux mains. Est-ce que la peur est toujours mauvaise? De quoi avez-vous peur ce matin? C'est important de réfléchir à cette question parce que nos peurs animent, dirigent vraiment nos actions, nos décisions, nos réactions. Et tous les êtres humains ont peur de quelque chose. Peut-être vous avez peur de votre chef ou de votre collègue un peu pénible ou autoritaire. Peut-être vous avez peur de rester seul toute votre vie. Ou vous avez peur de ne pas être assez populaire. Peut-être vous avez peur de souffrir, de décevoir. En fonction de ces peurs, vous allez mettre en place une stratégie, une manière de vivre. Et puis il y a des peurs qu'on n'arrive pas à maîtriser, hein. La peur des chiens, des araignées. La peur des espaces réduits, la peur de la mort. Est-ce que nous connaissons nos peurs ce matin? On aurait tendance à résumer l'enseignement de la Bible à « n'ayez pas peur ». L'amour bannit la crainte. Et pourtant, il faut craindre Dieu. Encore une fois, il nous faut toujours incliner un peu la carte pour voir ce qui se cache derrière. Les sages-femmes firent ce qui est juste, non parce qu'elles n'avaient pas peur, mais parce qu'elles avaient la crainte du seul être digne d'être craint. En fait, la Bible nous invite pas seulement à ne pas avoir peur, même si on pourrait développer ce que cela voudrait dire, mais plutôt, je vais le dire comme ça ce matin, à choisir nos peurs, à les réorienter. Elle nous invite à les réorienter vers celui qui incarne admirablement, justement, d'un côté la terreur et de l'autre l'apaisement. La terreur parce que nous savons ô combien ce serait chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, on entend souvent cette expression dans la Bible, du Dieu saint qui a toutes les raisons d'être en colère à cause de notre péché. Mais terriblement apaisant. Parce que, quelle grâce d'être entre les mains de ce Dieu tout-puissant, mais qui veut la paix avec nous et qui nous déclare son amour. Alors pour finir, j'aimerais vous laisser avec deux questions, ou deux sujets de prière. Et si vous avez à cœur de prier avec quelqu'un, comme à l'habitude, on se tient disponible du côté du bureau à la fin du culte. Est-ce qu'il y a quelque chose actuel? Alors, j'ai dit deux questions, mais il y en aura plus, en fait. Je vais les développer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous craignez plus que Dieu actuellement dans votre vie? Si c'est le cas, il est possible ce matin de réorienter cette crainte vers le seul que nous devrions réellement craindre, mais qui en Christ se déclare entièrement de notre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous craignez plus que Dieu ce matin? Ou alors, autre question, et peut-être que ce passage vous encourage, comme les sages-femmes, à un acte de courage en ce début d'année. Est-ce qu'il y a un domaine où la crainte de Dieu devrait vous amener à prendre position, à sortir de votre zone de confort? Alors, on a entendu Xavier tout à l'heure, qui justement sort de sa zone de confort et part demain en Albanie, mais pas besoin d'aller en Albanie pour que la crainte de Dieu nous pousse justement à être courageux, à un geste de courage. Est-ce que je dois prendre position face à une situation injuste qui m'entoure? Est-ce que je dois être courageux et couper avec une habitude qui justement m'empêche de nourrir une saine crainte de Dieu? Choisir la crainte de Dieu nous rendra courageux. J'ai envie de préciser pour ce qui est vraiment utile. Choisir la crainte de Dieu nous rendra courageux pour ce qui est utile. Peut-être une exhortation à méditer au moment où recommencent nos années, avec toutes ces prises de décision, tous ces engagements que nous avons à prendre, tous ces choix que nous avons à faire. Nourrir cette sainte crainte de Dieu pour être courageux face à tous ces choix. Que le Seigneur vous bénisse, et je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es ce Dieu qui nous assure son désir d'être présent au milieu de nous. Tu es présent ce matin au milieu de nous dans cette assemblée, et tu es présent, tu seras présent demain dans chacune de nos vies là où tu nous envoies. Seigneur, merci parce que tu as ce désir justement de nous restaurer. Tu as ce désir de nous reconstruire malgré le péché qui nous a défigurés. Et Seigneur, bien, ce matin, nous avons cet encouragement, cette voie du courage à suivre, ce courage qui se nourrit justement d'une saine crainte de ton nom et de ta volonté. Et Seigneur, bien, je te prie que face à chacun des défis qui, au moment de repartir, sont tout aussi multiples et variés que ceux que l'on a partagés au moment de nous rassembler, eh bien, tu puisses conduire chacun là où il a besoin de voir ta volonté, de discerner justement ce que tu appelles à faire. C'est en ton nom que nous te prions, Seigneur. Amen.